Un tour d'horizon éditorial de publication de la rentrée, un choix de livre en lien avec la spiritualité. Les premiers sont deux ouvrages publiés aux éditions Livetan. Le premier des deux, Liberté, Égalité, Fraternité, Valeurs spirituelles, Valeurs républicaines, un ouvrage préfacé par Édouard Philippe, Premier ministre. Alors cet ouvrage a une histoire. Cet ouvrage émane d'un groupe de travail composé d'étudiants de la première session d'EMUNA, ce programme de formation continue lancé à Sciences Po à la rentrée de septembre 2016. EMUNA, nous dit le directeur de Sciences Po, M. Frédéric Mion, qui préface ce livre, répond à un besoin communément identifié qui est celui d'offrir une formation d'excellence à l'ensemble des acteurs qui se trouvent aux prises avec les questions religieuses. EMUNA, nous rappelle Frédéric Mion, est unique par son initiative collective, venue de représentants du bouddhisme, de toutes les confessions chrétiennes, de l'islam et du judaïsme. La vocation d'EMUNA, nous permettre de vivre mieux dans notre société, tout simplement. Et c'est donc dans ce cadre d'EMUNA que les étudiants Anne-Gaël Attias, rabbine, Christophe Cousinier, pasteur de l'Église protestante unie dans notre région Cévennes Languedoc-Roussillon, Valérie Douchèze, haut fonctionnaire, et Mohamed Galmine, aumônier, ont rassemblé des textes nombreux en commentaire de la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». Ainsi, les auteurs de ce livre, nombreux, font un parallèle avec la devise républicaine avec ces mêmes notions dans leurs religions respectives. Citons par exemple l'article de Pauline Beb sur la liberté face au texte, ou encore l'article de Mohamed Galmine sur l'islam peut-il se conjuguer avec la devise républicaine, ou encore l'article du pasteur Christophe Cousinier que j'ai cité tout à l'heure sur la laïcité, une liberté fondamentale. Le concept d'égalité est aussi décliné dans le chapitre « Quelle égalité devant la loi et devant Dieu ?» Citons l'article de Laurent Schlumberger, qui fut président de l'Église protestante unie de France, à propos d'égalité et de protestantisme, ou encore celui de la docteure en théologie, Joanne Charras-Sancho, protestantisme et inclusivisme, pasteur et pasteur égaux en droit liturgique. Enfin, et le triptyque sera clos, la question de la fraternité est celle du dernier chapitre, comme il se doit. Pour Valérie Douchèze, fonctionnaire diplômée de Sciences Po, la fraternité est un supplément d'âme dans le droit. Juste un supplément d'âme. Et pour les représentants des religions catholiques, protestants, la fraternité est présente dans chacune de leurs actions. Liberté, égalité, fraternité, valeurs spirituelles, valeurs républicaines, par Anne-Gaëlle Attias, Christophe Cousinier, Valérie Douchèze et Mohamed Galmine, aux éditions Olivetan. Le deuxième livre de cette sélection est aussi publié aux éditions Olivetan, qui, rappelons-le, est une maison d'édition protestante directement en lien avec l'Église protestante unie. Ce deuxième livre, « Maintenir la flamme, les églises d'Afrique face aux grands défis actuels ». Il est dirigé par Simon Kossidosou, Samuel Désiré Johnson et Célestin Kiki. Cet ouvrage est le fruit des travaux d'un colloque scientifique qui a eu lieu sur le campus de l'Université protestante d'Afrique centrale, autrement dit l'UPAC, à Yaoundé en 2016. La question posée au-delà du titre officiel du colloque « Les églises d'Afrique face aux grands défis actuels » est la suivante. Que signifie Dieu pour des gens qui sont dans les situations de pauvreté, de sécheresse et de famine, d'injustice et d'oppression. Ça, c'est la vraie question de ce livre. Je crois que toutes les questions possibles dans ce contexte ont été posées sur 6 axes de réflexion. La radicalisation des religions et l'instabilité des États en Afrique, les églises traditionnelles et les nouvelles formes de croyances, le changement climatique, la sécurité alimentaire et la problématique de la terre, les églises face à la tragédie de la migration sud-nord, les églises face à la maladie, VIH, sida, hépatite A, B, C, et le dernier axe, la famille en Afrique, à l'heure des mutations sociopolitiques. Ces actes de colloque sont d'une pertinence et d'une lucidité impressionnantes. Pas de faux-semblants, pas de face cachée. Je dirais pour conclure que ce livre est indispensable pour toute personne qui s'intéresse à ce continent, un continent riche et sur lequel nous avons parfois des représentations fausses, des représentations qui sont très très loin de la réalité. Tout théologien, tout économiste devrait, me semble-t-il, avoir ce livre dans sa bibliothèque pour revoir sa façon de penser théologiquement et économiquement ce vaste continent qu'est l'Afrique. Maintenir la flamme, les églises d'Afrique face aux grands défis actuels. Aux éditions Olivier Tan. Le troisième livre de cette sélection est de Franck Lalou, « L'art de calligraphier l'hébreu et le grec, histoire et méthode pratique » aux éditions Vega. Un beau livre, signé par un calligraphe de réputation internationale, qui compte une centaine d'expositions en France, au Japon, au Maroc, en Angleterre, au Canada. Franck Lalou, calligraphe, est aussi essayiste dans des domaines tels que le biblique, l'archéologique, le poétique et le pédagogique. On compte à ce jour 40 livres signés par Franck Lalou. Dans ce beau livre, il propose une méthode ludique, agréable, pour découvrir geste après geste le trait de la lettre calligraphiée et le sens du trait. Il propose ainsi de nombreuses planches d'exercice. Et au-delà de ce travail d'écriture, Franck Lalou emmène le lecteur dans un voyage spirituel et initiatique. Calligraphier l'hébreu et le grec, nous dit-il, c'est entrer dans l'univers biblique, dans l'univers de la Kabbale, du grec du temps de Jésus, et au-delà de la pédagogie de la plume d'encre, il nous dit que les lettres ne sont pas pour les Juifs que des outils graphiques pour transcrire une langue. Les 22 signes hébreux sont comme 22 entités, 22 symboles, 22 personnes aux personnalités complexes. Pour cette tradition hébraïque, les lettres créent le monde et nous invitent à poser les questions essentielles en renvoyant à l'origine de l'univers et des hommes. En effet, la métaphysique, la cosmogonie, la philosophie, l'anthropologie passent par le canal de l'alphabet. Franck Lalou propose donc, au-delà des planches méthodiques qui guident le calligraphe, l'histoire de l'alphabet hébreu et une approche juive de la calligraphie. Franck Lalou ne laisse que 10 pages sur les 200 du livre à l'alphabet grec. 10 belles pages consacrées à l'alphabet grec Sinaiticus, nommé ainsi en raison du Codex Sinaiticus, qui date du 4e siècle de notre ère. Codex écrit avec des onciales. Franck Lalou, l'art de calligraphier l'hébreu et le grec, histoire et méthode pratique, aux éditions Vega. Les 3 livres suivants sont publiés aux éditions Ampelos. 2 femmes et un homme sont ainsi mis à l'honneur dans ces éditions Ampelos. Pour le premier, Il s'agit du journal d'Hubert Steinschneider, réfugié et résistant, de l'Autriche aux Cévennes. Hubert Steinschneider appartient à une famille d'origine juive et autrichienne qui s'est réfugiée en France lors de la montée du nazisme. Hubert Steinschneider entre dans la résistance en fabriquant et diffusant des faux papiers à partir de la faculté de théologie protestante de Montpellier, où il fait ses études. Il travaille aussi pour les services secrets américains. Pendant l'occupation, le 16 juin 1944, Hubert Steinschneider, alias Pierre Segui, pasteur à la Salle, intervient Bible à la main pour sauver de l'exécution un groupe d'otages retenus par les soldats allemands. Son journal est ici traduit et présenté par Evelyn Brands, américaine. Patrick Cabanel, historien et directeur d'études à l'École pratique de hautes études, signe la préface. Rappelons aussi que cet événement du 16 juin 1944, cet événement de cette prise d'otage, a fait l'objet d'un spectacle dans le premier semestre de l'année 2018, « Le jeu du jour et de la nuit », un oratorio pour voix et cordes sur une idée originale de Serge Rigal et Jacques Monteil et un texte de Claude Leroy. Ces trois créateurs habitent la Salle. Il s'agissait donc de Hubert Steinschneider, alias Pasteur Pierre Segui, réfugié et résistant de l'Autriche aux Cévennes, aux éditions Ampelos, dans leur format de poche. Le second livre des éditions Ampelos dans cette collection est celui de Marjolaine Chevalier sur Isabeau Vincent, la bergère inspirée de Saoud en Dauphiné. Isabeau Vincent est une paysanne illettrée qui vécut au XVIIe siècle en Dauphiné, au sud de la vallée de la Drôme. Isabeau Vincent fut au cœur d'une affaire dont on parla alors dans toute l'Europe. C'est en effet elle, Isabeau Vincent, qui fut à l'origine du mouvement protestant des petits prophètes. Pendant quelques mois, Isabeau Vincent a parlé comme en transe. Elle prononçait des citations bibliques, des exhortations, des phrases de controverses religieuses contre le catholicisme. Cette affaire incompréhensible et surprenante fit du bruit. Le petit peuple protestant qui l'écoutait fut convaincu qu'elle prophétisait, qu'elle parlait de la part de Dieu. En ce temps, rappelons-le, les protestants étaient cruellement privés de tout secours spirituel, de toute prédication, de toute parole. C'est l'époque des assemblées du désert. Et son exemple fut suivi, pendant un peu plus d'un an, par des adolescents aussi simples qu'elle. Les historiens aujourd'hui constate que ce phénomène étrange d'inspiration ou de prophète, brusquement apparu puis larvé pendant plus d'une dizaine d'années, est le point de départ de la révolte des Camisards Cévenols en 1702. C'est l'histoire de cette bergère que Marjolaine Chevalier retrace en se plongeant dans les archives du musée protestant de Poët-Laval. Isabeau Vincent, la bergère inspirée de Saoud en Dauphiné, par Marjolaine Chevalier, une postface de Philippe Joutard aux éditions Ampelos. Le troisième et dernier livre de cette sélection nous emmène aux États-Unis, en Amérique du Nord, du temps de Martin Luther King. Il s'agit de Génération Rosa Parks, les militantes dans l'ombre de Martin Luther King. Des portraits que nous propose Aniel Hatton. Aniel Hatton est passionnée par l'histoire des États-Unis et particulièrement par le rôle de ces femmes qui travaillaient, qui œuvraient dans l'ombre de Martin Luther King, des militantes. En effet, en plus de Rosa Parks, connue, elle présente, Aniel Hatton, la vie de 18 autres militantes qui se sont battues pour la reconnaissance des droits civiques. Ces femmes ont en effet contribué, chacune dans leur rôle, au succès du mouvement non-violent dont on connaît le pasteur Martin Luther King comme chef de file. Annie Alaton nous propose une formidable plongée dans l'histoire de la non-violence, une histoire dont on a oublié les noms de ces femmes, pourtant particulièrement actives. Génération Rosa Parks, les militantes dans l'ombre de Martin Luther King, de Annie Alaton aux éditions Ampelos. Au revoir.